producteur et il est surtout youtubeur ou influenceur. Vous l'avez peut-être vu sur les internets via Instagram ou Facebook avec les histoires électroniques. C'est DJ Little Nemo. Bonsoir à toi.
Bonsoir, bonsoir Stéphane, ça va ?
Ben pas trop mal et toi ?
Bah écoute, très bien, c'est un plaisir d'être invité, merci beaucoup, ça fait plaisir.
Le plaisir est partagé, d'autant plus que bien, c'est la première émission de cette nouvelle saison radio. Alors je t'ai présenté comme DJ, comme youtubeur, comme influenceur. De ton côté, comment est-ce que tu aimes te présenter ?
Alors DJ avant tout, ça c'est sûr, parce que c'est mon métier depuis au moins plus de 20 ans, 20-25 ans, voire même 30 fois si je compte. Influenceur non pas trop, parce que j'aime pas trop ce terme influenceur, c'est un peu connoté négativement. Et puis influenceur, moi je cherche pas à influencer qui que ce soit, je suis youtubeur, c'est-à-dire je fais des vidéos et c'est très bien comme ça, mais non, je suis pas influenceur. Non.
Tu as une chaîne YouTube et un site internet qui s'appelle Histoire électronique. Et ton travail peut à certains moments se rapprocher de ce qu'on peut faire dans DJ Academy, puisque à travers cette émission, on se quitte avec un classique. Alors parfois, je suis amusé parce que on fait des focus sur les mêmes DJ, producteurs, labels ou même classiques. Alors si à travers l'émission de radio DJ Academy, nous, on est plutôt axé sur l'actualité du disque, toi, tu te concentres justement sur le passé. Comment t'es venue l'idée de faire cette chaîne YouTube consacrée à l'histoire de la musique électronique ?
C'est vrai que je parle des classiques, c'est-à-dire je parle beaucoup de tous les artistes et labels et morceaux qui ont marqué l'histoire des musiques électroniques. Donc évidemment, quand tu passes des classiques, y a peut-être une chance que j'en ai parlé à un moment donné, ou du moins que je l'ai évoqué, même si je suis loin d'avoir fait tous les sujets. L'idée est venue pendant le Covid où j'avais pu travailler en tant que DJ et j'aime passer du savoir d'une manière générale. Et si je suis DJ, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis DJ, c'est pour faire découvrir de la musique aux gens. C'était vraiment la base de ma passion du DJing. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers la vidéo, d'abord en essayant, en me disant, tiens, c'est vrai que la place est libre, il n'y avait pas de youtubeurs français, francophones, qui abordaient ce sujet particulièrement. Et donc c'est parti comme ça, de cette idée là avec quelques vidéos qui ont commencé à marcher assez rapidement, parce que je pense qu'il y avait un trou à combler, donc je suis tombé dans ce trou là au bon moment, je pense, et la chaîne plaît a priori, donc je continue mon chemin là dedans mon sillon.
Donc ce projet, tu l'as lancé il y a 5 ans et au tout départ, ton intention, tu dirais que c'était celle d'informer, de raconter, de vulgariser ou tout simplement de partager ta passion ?
C'est un peu tout en fait, hein. C'est vraiment un peu tout, c'est effectivement partager ma passion, parce que c'est ce que je te dis, c'est mon métier en tant que DJ, donc c'est vrai que pour moi, faire découvrir de la musique, dire aux gens écoutez ce truc parce que c'est important, c'est un artiste qui mérite d'être écouté, enfin, c'est vraiment ce que j'aime faire, et puis vulgariser aussi, parce que même si j'aime pas trop ce mot, parce qu'il y a vulgaire dans vulgariser, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce que j'essaye de faire quand même, c'est-à-dire je voudrais quand même que mes vidéos puissent être accessibles, y compris aux curieux qui connaissent pas forcément les musiques électroniques et qui se disent, tiens, j'ai déjà entendu parler de ce truc, ou je suis sorti en boîte, j'ai entendu ça et c'est pas mon univers, mais je vais quand même essayer d'en savoir un petit peu plus, quoi.
Dès le départ, est-ce que tu te souviens avoir défini une sorte de format, c'est-à-dire quel ton tu voulais aborder, quelle longueur tu voulais donner, est-ce que tu avais réfléchi au graphisme, voire au style narratif?
Alors pas du tout, d'ailleurs je crois que ça se voit dans les premières vidéos, non pas du tout, si ce que je me suis dit c'est que, enfin je crois que c'est un hasard, hein. La première vidéo doit faire j'imagine 20 minutes, enfin quelque chose comme ça, j'ai choisi le sujet de la première vidéo un peu au hasard je dirais, enfin pas au hasard, mais je voulais pas un sujet trop important parce que je savais que si la chaîne marchait je voulais me laisser le temps de le traiter, un sujet type je sais pas, Laurent Garnier, l'histoire de la techno, l'histoire de la house, c'est un sujet qui est très très lourd, donc je sais pas, un truc que je voulais faire d'entrée de jeu, quoi, je voulais attendre. Donc j'ai fait un test sur un producteur de synthpop qui est assez connu mais qui avait quand même une carrière et une bio assez bourrée d'anecdotes, et c'est ça que j'aime raconter aussi, c'est des anecdotes histoire d'attirer un peu, enfin histoire de maintenir un peu l'intérêt, c'est de raconter des petites anecdotes sur des morceaux qu'on connaît et on se doute pas que il s'est passé ça, qu'il y a eu ça. Donc c'était un test, j'ai fait ce test avec ce producteur, ça s'est bien passé, la vidéo faisait 20 minutes, le format facecam me paraissait être le plus logique, entrecoupé d'extraits de musique, ça aussi c'est important parce que tu parles de musique, donc il faut passer des extraits de musique, enfin, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et de toute façon j'ai remarqué après que ouais, à peu près 20 minutes ça me paraissait être le bon format pour... pas lasser les gens. J'ai rarement fait plus de 30 minutes dans des vidéos, je crois que je l'ai jamais fait, et je pense qu'au bout de 30 minutes les gens se lassent. Et puis surtout quand tu vas sur YouTube, si tu vois une vidéo qui fait 45 minutes, ouais, tu la regardes pas comme ça en coup de vent, quoi. Tu te dis bon ok, je vais me poser, ça fait 45 minutes, je vais pas la regarder tout de suite, tu vois. Alors que 20 minutes, bon, tu te dis oh, allez 20 minutes ça va, j'ai le temps de la regarder, quoi.
Combien de temps te prend la réalisation d'un épisode en moyenne ?
Oh, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps de recherche documentaire, de livres que je peux lire, d'interviews, de vieux magazines. J'essaie de tout noter dans une base de données dès que je vois un article, une info, une interview, pour tout stocker, pour tout centraliser, pour pouvoir après ressortir un truc sur une personne en particulier. Donc, j'ai le temps de préparation, de lecture, qui peut prendre plusieurs jours, hein, si c'est un livre, par exemple. Et puis après, il y a l'écriture du storyboard qui peut prendre une bonne demi-journée, voire une journée. Après, il y a le tournage, pareil, qui peut prendre une journée, une demi-journée, enfin plutôt une demi-journée. Et puis après, il y a le montage, c'est ce qu'il y a de plus long, quoi. C'est de monter la vidéo, parce que comme il y a beaucoup d'extraits de musique, bah, il faut aller chercher les extraits, il faut les mettre en design, on va dire, même si au début c'était assez, comme tu parlais du design, c'est vrai qu'au début il n'y avait pas de charte graphique, il n'y avait rien, il n'y en a toujours pas, mais maintenant il y a un générique, j'essaie quand même quand je mets des extraits de faire une petite animation, d'essayer d'animer un petit peu les effets visuels, même si c'est pas mon boulot, mais bon, j'essaie quand même de le faire, quoi. Donc ouais, c'est plusieurs journées de travail, ouais, pour une vidéo, ouais, tout à fait.
Lors de la précédente saison radio, à ta place, nous invitions Jean Bruce à l'occasion de son livre consacré au genre New Beat. Là, il nous expliquait que pour l'écriture de son livre, il était allé à la rencontre où avait pu questionner directement les acteurs de l'époque, producteurs, musiciens, DJ. Est-ce que toi également, pour tes histoires électroniques, tu vas à la rencontre des musiciens ou est-ce que tu vas les questionner pour fiabiliser certaines anecdotes ou certaines informations ?
Alors ça va pas tout à fait, ça va pas jusque là. C'est vrai que il m'arrive de raconter des conneries sur la chaîne, comme je dis, parce que bah, effectivement mes sources c'est les articles ou les interviews que je peux trouver à droite à gauche, qui peuvent ne pas être fiables. Je me sers évidemment comme tout le monde de Wikipédia, et on sait que Wikipédia est pas fiable, ou de sources à droite et à gauche. Et bah après il se peut que ces infos soient pas tout à fait fiables. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans ma tête, de ce que j'ai vécu, de ce que je sais de mon métier de DJ, mais non, je vais pas jusqu'à contacter les artistes. Bon, déjà parce que ça serait long à chaque fois de vérifier systématiquement toutes les infos. Par contre, ce que j'aime faire et ce que je fais de plus en plus, c'est aller voir des artistes pour les interviewer, en fait, pour que eux me racontent des choses, soit sur leur bio si j'ai envie de traiter la bio, soit sur les titres qui leur plaisent, sur les titres qui les ont influencés. Et c'est vrai que j'aime bien, enfin je peux maintenant avoir des artistes parce que la chaîne marche bien et que du coup j'ai la chance d'avoir des gens qui me répondent et qui veulent bien me répondre, quoi. Parce que c'est aussi ça l'anti, c'est de se dire qui va me répondre, moi personne me connaît, donc je pense que l'artiste en question n'a rien à faire de répondre à mes questions. Donc et j'ai déjà eu des réponses, je sais plus de qui d'ailleurs, mais je ne sais plus qui c'est. J'ai déjà eu un artiste qui m'a répondu que de toute façon il avait déjà écrit un livre à ce sujet et qu'il fallait que je lise le livre, en gros, quoi. Voilà. Donc que j'avais pas à l'interviewer parce que tout avait déjà été dit et qu'il avait rien à me dire, quoi. Voilà.
Pas cool,
mais bon, enfin c'est pas lui qui m'a répondu, c'était un agent, mais bon voilà, c'est bon, ok, bah j'ai dit bah ok, d'accord. Bon.
En complément des vidéos que tu peux poster sur ton compte Instagram liées aux histoires électroniques, tu t'es mis depuis peu à publier ton top 10 mensuel, et c'est là que je me rends compte que eh bien, dans ton top 10 on y retrouve quelques productions qui auraient pu être jouées dans DJ Academy et qu'on va jouer d'ailleurs. Et parmi elles, il y a Monkey Love de Galago, un producteur belge. Le morceau est à retrouver sur le label Flash Forward Presents. Donc nouveauté tout de suite avec Monkey Love par Galago. Et on se retrouve tout de suite après, toujours avec DJ Little Nemo, notre invité.
DJ Academy, le mag, l'interview. We'll be right back. Académie, le mag, l'interview.
Titre du morceau Monkey Love, c'est l'une des dernières productions d'un jeune label belge qu'on aime bien, un net label, Flash Forward Presents. Galago, le musicien, est-ce que tu as des anecdotes le concernant ou
pas vraiment, pas trop? Non, j'aime beaucoup ce morceau parce que j'aime bien les petits bruits de Monkey, hein, d'où le nom du titre. J'aime beaucoup ce morceau, il est dans l'air du temps, assez progressive, techno. Et c'est un morceau que j'ai eu par promo, hein, via Flash Forward. Et c'est vrai que du coup, je fais des top 10 maintenant régulièrement sur Instagram, puisque les gens me demandent un peu ce que j'écoute en ce moment. Et donc voilà, j'ai décidé tous les mois de faire un petit top 10. Et celui-là est dans le top 10 de il y a un mois ou deux, je pense, parce que je trouve que le morceau est très efficace. Après, j'ai pas plus d'infos que ça sur cet artiste, malheureusement.
À travers ta page Instagram et par rapport à ton site internet, tu fais presque le même travail que nous dans DJ Academy. Tu t'intéresses à l'actu, mais tu t'intéresses également aux sources, puisque tu as un site internet et tu as également une page YouTube qui s'appelle Histoire électronique. On a parlé de ton parcours de DJ. Tu nous expliquais que cette chaîne YouTube, elle est née pendant le confinement. Dans ton parcours, est-ce que tu as eu une formation particulière en musicologie, histoire, ou tu penses que tu es totalement autodidacte ?
Non, aucune en tout cas. Autodidacte, je ne sais pas, mais en tout cas en tant que DJ aussi, parce que j'ai jamais fait d'école de DJ ou de ce type-là. Enfin, j'ai appris sur le tas, je me suis entraîné, j'ai fait des soirées, et t'apprends sur le tas. Je pense que c'est le meilleur moyen d'ailleurs pour être DJ. Et non, ni en histoire, ni en musique électronique, c'est vraiment juste de la pure passion en fait que je partage.
On va parler un petit peu mobilette. Quels outils techniques utilises-tu ? J'entends par là logiciel, matériel, bibliothèque sonore. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu les coulisses côté montage ?
Ouais, bien sûr. Alors comme je t'ai dit déjà, ça part d'une base de données que j'ai développée moi-même, enfin via un site web, où j'effectivement je stocke toutes les infos que je peux trouver, des articles de magazine, dès que je vois un truc passer sur internet, une vidéo YouTube sur un thème en particulier, tout ça, tac, je mets tout ça de côté avec des mots-clés, tout ça. Donc ça me permet déjà d'avoir une base de données de thèmes, d'artistes, de labels que je peux retrouver facilement. Et après, en termes de montage, de tournage, vidéo, c'est la caméra de mon téléphone d'ailleurs, pour être celle qui fait la meilleure définition. Des micros rapidement, les premières vidéos, il n'y avait pas de micro, ça s'entend d'ailleurs, hein, ça résonne un peu. Donc je me suis rapidement équipé en petit micro, cravate, histoire d'avoir quand même un son un peu meilleur. En light aussi, histoire quand même d'avoir des lights. Faut vraiment voir les premières vidéos, elles sont assez catastrophiques en termes de réalisation, hein. Faut vraiment, c'est lourd hein, quand je les regarde, mais bon voilà, c'était comme ça. Et après en termes de montage, mais c'est sur Adobe Premiere. Montage sur Adobe Premiere, voilà, c'est tout, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça.
Est-ce que tu penses avoir une ligne éditoriale stricte ou est-ce que tu te laisses une place à l'improvisation, voire aux envies du moment ?
Oui, beaucoup d'envies. Alors, ligne éditoriale stricte, non, parce que je m'interdis aucun sujet à partir du moment où c'est dans l'univers de ce que j'ai envie de parler. Envie du moment, ça m'arrive de tout d'un coup de passer un disque, notamment des fois quand je suis DJ, hein, je passe des disques et puis des fois ce disque-là, comme toi, tu en parlais d'ailleurs, t'avais une idée quand tu regardais un truc, et voilà, des fois je passe un disque et je me dis, non mais c'est vrai quand même, ça mériterait quand même d'en parler ou quoi que ce soit. Donc des fois c'est une envie. Après, ce que je fais depuis quelques temps, puisque j'ai un site aussi qui est lié à la page YouTube, il y a un site internet où les gens peuvent soutenir financièrement la chaîne, et en soutenant la chaîne ils peuvent voter pour les prochains sujets. Donc régulièrement je soumets une série de sujets sur lesquels j'ai déjà plus ou moins travaillé, que j'ai plus ou moins envie de faire, et en fonction des votes, les sujets sont traités ou pas traités, si vraiment les votes sont catastrophiques, ou traités en priorité en fonction des votes. Ce qui est sûr, c'est que la ligne éditoriale, j'essaye d'alterner les genres abordés. C'est-à-dire, je vais pas faire 4 sujets de suite sur de la techno underground. Je vais essayer d'alterner des choses un peu plus pointues avec des sujets peut-être plus relatifs au DJ et puis d'autres sujets sur des choses, des tubes par exemple, histoire de varier et que les gens se lassent pas en se disant c'est une chaîne 100% techno ou c'est une chaîne qui parle que de ça et j'en ai marre quoi.
Et c'est vrai que quand on découvre tout ton travail de vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ton travail est très éclectique, ça brasse des courants très underground comme des genres un peu plus populaires comme l'Eurodance. Et depuis peu, tu t'es lancé dans des formats courts, et là je pense au petit focus sur Confettis et le morceau Sound of Sea, ou même à Jean-Paul Gaultier avec sa carrière musicale dans la house music à la fin des années 80.
Oui, c'était un peu incontournable. C'est vrai que sur YouTube, il y a maintenant d'autres chaînes hein, qui parlent de musique électronique, pas forcément sous le même angle, sous le même aspect. Ça peut être des chaînes plus pointues, ça peut être des interviews. Tu parlais de Jean Bruce, il a une chaîne Nocturbulus sur laquelle il fait des longues interviews. Par exemple, en live.
Alors lui, fait des formats très longs.
Ouais, alors c'est très long, ouais. j'en sais quelque chose, ouais. C'est très très long, et c'est vrai que sur Insta et sur YouTube, sur TikTok, Insta, TikTok, je voyais passer énormément maintenant de jeunes qui font des formats un peu similaires à ce que je fais sur YouTube, mais en version courte, c'est-à-dire des anecdotes, des gens qui racontent des soirées, qui racontent les nouveautés techno, les nouveautés, et ça s'est vraiment multiplié ces dernières années. Et je me suis dit à un moment donné, faut pas. quand même aussi que j'investisse ces plateformes, pas pour être has-been, parce que ma chaîne YouTube marche très bien et c'est pas le problème, mais c'est bien aussi de croiser un peu les différents supports, et c'est pas la, tu communiques pas la même façon sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. Donc je m'amuse depuis voilà, depuis 3-4 mois, on verra si ça dure, mais enfin pour l'instant il y en a plein en stock, voilà, de faire des petits shorts comme ça de 30, de 1 minute 1 minute 30, pour raconter une anecdote précise sur un sujet que soit j'ai déjà abordé sur la chaîne, soit une anecdote que j'ai pas pu placer dans une vidéo parce que c'était trop long ou parce que je voyais pas l'intérêt à l'époque. Et là, c'est le moment de ressortir ce type d'anecdote, quoi.
Sur Instagram, DJ Little Nemo, on peut retrouver sur ta page tes histoires électroniques, tes vidéos, et tu partages depuis peu ton top 10 mensuel, donc uniquement des nouveautés cette fois-ci. Comme quoi, hein, pour comprendre la musique d'aujourd'hui, il faut connaître ses classiques. Et parmi tes récents coups de cœur, il y a Dina Summer avec Disco Goth, un morceau ici remixé par The Populist, aka Yann Wagner. Et ce morceau est une nouveauté puisqu'on peut la retrouver au sein de la dernière compilation du label Iptamenos Discos. Dina Summer, dès maintenant, c'est une nouveauté. Et on se retrouve tout de suite après avec DJ Little Nemo, notre invité.
DJ Academy, le mag, l'interview. DJ Academy, le mag, l'interview.
Leur album a été l'une des belles surprises de cette année 2025. Il s'appelle Dina Summer et leur album trouve aujourd'hui écho au travers de quelques remixes. Le morceau Disco Goth, qui était un petit peu vitalicain sur les bords, là retrouve un esprit un peu synth-pop avec The Populist, Yann Wagner. Et ce morceau fait partie des coups de cœur de notre invité, Little Nemo. On peut le retrouver, c'était ton top 3 au mois de juillet, je crois.
C'est possible, ouais, non, mais j'aime beaucoup Dina Summer, j'aime beaucoup le label aussi, Iptanemos Discos. C'est un label allemand, je crois. Non, ou grec peut-être, je sais plus.
Le label est allemand.
Allemand, ouais, mais je me demande si c'est pas un couple.
Dina est grec. Dina,
voilà,
grec. Dina de Local Society est grec.
C'est ça, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Iptanemos Discos. Et récemment, par exemple, ils ont sorti une double compile de tous les artistes remixés. Et j'adore ce son très synth-pop, vraiment très limite EBM parfois. J'adore ce label, j'adore cet artiste qui commence à bien tourner, commence à être bien connu. Hein. Le groupe commence à être bien connu. Et ouais, j'ai vu que tu avais fait d'ailleurs un podcast spécial d'ailleurs sur ce label il y a quelques semaines de cela.
Aujourd'hui, tu es avec nous non pas pour parler de l'actualité du disque ou de tes coups de cœur du moment, on est surtout là pour parler de ton travail de YouTuber. Tu as une chaîne qui s'appelle Histoire Électronique. Quels ont été les retours qui t'ont le plus marqué depuis le lancement de ta chaîne ?
Il y en a eu pas mal. Les premiers retours ont été vraiment très importants parce que je partais de zéro en fait. Je partais de zéro, je savais pas à qui je m'adressais, je savais pas comment l'algorithme, comment les gens allaient trouver ma vidéo sur YouTube. Et donc les premiers retours ont été vraiment importants parce qu'ils m'ont donné envie de continuer. Parce que si la première vidéo que tu publies, tu fais ne serait-ce que 100 vues, ce qui moi déjà me paraissait énorme, c'est-à-dire que comment 100 personnes ont pu trouver cette vidéo et que tu as des commentaires qui te disent que c'est vraiment intéressant, que c'est bien, qu'ils ont appris des choses, puis t'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis tu montes assez vite à 1000 vues, et que pareil, les gens te disent que c'est très bien raconté, que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que je le dis souvent quand on me demande, mais c'est vrai qu'au début, t'as une sorte de, tu te sens illégitime à faire ça. Moi, je suis juste DJ, voilà, même si ça fait 30 ans que je fais DJ. Tu me disais que tu demandais au début de, tu me présentais au début en disant est-ce que je suis producteur. Non, je suis pas du tout producteur, j'ai fait quelques remixes mais je suis pas du tout producteur. Je suis loin d'avoir une légitimité que pourrait avoir un autre DJ très connu qui pourrait se lancer dans la même activité. Donc c'est un questionnement que tu as en disant j'espère que les gens vont quand même accepter que je raconte cette histoire, enfin ces histoires. Sans me ramener à la gueule que j'ai rien à faire là-dedans, que j'y connais rien. Donc c'était très bien d'avoir de bons retours tout de suite. J'ai quasiment jamais eu à très peu des retours incendiaires ou des trolls, enfin sinon si ce n'est des trolls, bon, qui font ça pour le plaisir. Mais sinon ça me plaît, et surtout quand c'est des gens que toi tu considères comme étant des gens importants, enfin qui t'ont marqué. C'est le cas par exemple de Joachim Garraud qui m'avait laissé un petit commentaire sur une vidéo sur la radio Maximum, ça fait super plaisir quoi, parce que c'est une de mes idoles, donc quand t'as quelqu'un comme ça qui regarde ta vidéo et qui te dit que t'as fait un bon boulot, tu te dis ça va, la mission a l'air accomplie, donc c'est cool quoi.
Et quand un prof de musique conseille à ses élèves d'aller regarder tes vidéos en guise de devoir scolaire?
Ah oui, j'étais assez fier pour le coup, ouais, qu'un jeune étudiant en bac de musique, je crois, c'est une école de musique, enfin c'est un bac de musique, enfin un bac spécialité musique, effectivement m'envoie un message pour me dire que sa prof de musique montre mes vidéos en cours sur l'histoire de la techno notamment. C'est une fierté quoi, de se dire que une prof se sert de mes vidéos comme support de cours. Tu te dis pas mal quand même. Comme je dis, moi j'invente rien dans mes vidéos, je fais que de reprendre, enfin de compiler des informations qui se trouvent déjà dans des livres, forcément, je veux dire, j'invente rien, enfin personne n'invente rien d'ailleurs, enfin un historien qui va te raconter l'histoire de, je sais pas, de la Rome antique, il y était pas, hein, donc forcément lui aussi il n'invente pas, il regarde ses sources, il multiplie les sources, et puis son métier, son expérience fait qu'il est capable de te raconter comment ça s'est passé.